France, une femme meurt sous les coups de son compagnon tous les 3 jours. C'est un chiffre qu'on ne peut plus ignorer. Mais peu d'entre nous savent que ces femmes vivent avant de succomber. Humiliées, terrorisées, traquées par des conjoints violents, même après une séparation, certaines de ces femmes doivent continuer à vivre cachées, comme si elles étaient en cavale pour échapper à leur bourreau. Quand elles arrivent à les repérer, la justice et la police les appellent des femmes en très grand danger. Comment ont-elles tenu face aux coups, parfois pendant des années ? À quoi ressemble leur vie à l'écart du monde en sursis ? Comment la société les protège-t-elle ? Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Morgane, son compagnon menacé en permanence de la tuer, jusqu'au jour où elle a réussi à prendre la fuite. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier, soyez les bienvenus.
Je suis allé dans un CHRS, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale dans l'est de la France. Ici, on accueille ces femmes en très grand danger. C'est pourquoi nous garderons le secret sur la localisation précise de ce centre. J'y ai rencontré Morgane. Et afin de préserver totalement sa sécurité, notre entretien a eu lieu dans un endroit neutre et protégé. Cette jeune femme s'est retranchée ici pour échapper à son conjoint, un homme qu'elle a follement aimé, mais dont le caractère jaloux et possessif a fait de sa vie un enfer. Pendant 6 ans, coupée du monde, privée de ses amis, isolée de sa famille, elle a été réduite à l'état d'esclave et battue quotidiennement.
Une journée type, par exemple, va être, on se lève à 5h du matin, je vais lui préparer son petit déjeuner, où tout doit être parfait. C'est-à-dire que les tartines que je vais lui préparer doivent être de la même longueur, le chocolat doit être toujours à la même température. Tout doit être parfait, parfaitement aligné sur la petite table où il va prendre son petit déjeuner. Ensuite, je dois aller mettre tous ses outils dans sa voiture, sachant qu'il est plaquiste, il a énormément d'outils. Donc tous les matins, je dois aller ranger sa voiture, la préparer, mettre le contact pour que quand il arrive, il n'y a rien à faire, juste à rentrer dans sa voiture. Ensuite, il part au travail et là, il va commencer à m'appeler. Il va m'appeler toute la journée pour savoir le trafic sur la route, savoir ce qu'il doit manger à midi. Parce qu'il m'appelle le midi, savoir ce qu'il va manger. Et si par malheur je l'ai mal conseillé, le soir il va me le reprocher. Donc ensuite il va continuer à m'appeler toute la journée pour me demander diverses choses. Et vers 5h, quand il rentre du travail, là c'est toujours le même rituel. Il rentre, il va me tendre ses pieds pour que je lui enlève ses lacets.
Ensuite, tendre ses pieds ?
Voilà, pour que je le déchausse, quoi, parce qu'il ne veut pas se baisser pour défaire ses lacets. Donc,
on est dans l'esclavage,
oui.
Non ?
Oui, c'est ça. Oui, c'est quasiment de l'esclavage. Après, il va prendre sur... quand on rentre dans l'entrée, on a toujours une boîte de mouchoirs blancs. Il prend tous les jours un mouchoir et fait le tour de la maison. Si le mouchoir est sale, là, c'est la guerre. Là, c'est si par malheur... Parce que tous les jours, je dois nettoyer la maison, elle doit être aseptisée. Et si par malheur, ce mouchoir est sale... Là, je sais que j'en ai pour la soirée. Là, ça va commencer. En fait, il commence un compte à rebours. Là où il va me dire, dès que le petit est couché, je te défonce. Dans 2 heures, dans 1 heure, dans 1 demi-heure, je te défonce. Voilà, ça va être ça. Il va me dire, il te reste plus que 10 minutes, il te reste plus que 5 minutes. Parce qu'on couche tous les jours le petit à la même heure. Donc de là, il va faire un compte à rebours. C'est très stressant en fait de vivre avec ça, de vivre presque normalement en fait, de continuer à faire à manger et tout. Et lui, il va passer derrière moi, il va me dire 30 minutes, 15 minutes. Voilà. Donc ça, jusqu'au moment où je vais coucher le petit, c'est horrible en fait. Jusqu'au moment où je vais descendre, il va tout préparer en fait. Il va fermer la porte à clé, fermer les rideaux. Et là ensuite, il va me demander de me présenter à lui, debout, les bras le long du corps. Et là, en fait, il va se prendre pour un boxeur, à me faire des feintes, à venir vers moi, comme s'il allait me taper, mais il ne me tape pas. Et là, en fait, il ne supporte pas que je bouge. Par exemple, s'il va me faire comme ça, que par réflexe, je vais faire ça, il ne supporte pas. Donc, en fait, il va tester mon... Il va me dire, si tu bouges, je te défonce. Donc, par la suite, en fait, je vais apprendre à plus pleurer et plus bouger, en fait, quand il me fait ses feintes. Mais ça ne dure jamais très longtemps. Son petit cinéma, ça va être une ou deux minutes où il va essayer mes réflexes, comme il dit. Et puis là, tout d'un coup, si par malheur, je vais pas me défendre, mais me protéger, là, ça commence. Ça va être des claques, des coups de poing, des coups de pied, jusqu'à temps que je tombe à terre. Et ce qui va le calmer, c'est le sang. C'est la seule chose qui... Ce qui m'a sauvé la vie, en fait, c'est que cet homme-là ne supporte pas la vue du sang. Et à chaque fois qu'il y a du sang, ça le calme, il s'arrête net. Il va se laver. Il va se laver. Et quand il descend, il veut que je m'excuse. Voilà. Juste avant d'aller se laver, il va me dire, quand je descends, tu remets tout net et prépare tes excuses que tu vas me faire.
On est dans un comportement de psychopathe, là.
Oui. Oui, c'est ça. C'est ça ou...
Mais qu'est-ce qui vous empêche de parler? C'est la peur?
La peur, je pense que c'est le sentiment le plus fort de tout. Plus fort que l'amour, plus fort que... Quand on a peur, on devient bête. Avec la peur, on réfléchit plus, en fait.
À cette époque, en fait, vous vivez ces choses-là à quelle cadence, à quel rythme? C'est tous les jours?
Quasiment. 5 jours sur 7.
Et pendant combien de temps ça durait, tout ça?
4 ans. 4 ans.
Comment est-ce qu'on peut résister à... Lorsque vous regardez ça avec du recul, comment est-ce que vous avez pu résister à ça?
Même moi, je me pose encore la question, quoi. C'est, on pense qu'à une chose, on en survit, en fait.
Bon, mais il y a un véritable déclic. Le jour où vous rencontrez un de vos anciens amis de collège,
oui.
Je crois.
Oui, oui.
Qu'est-ce qui se passe le jour où vous rencontrez cet
ami? Quand je le rencontre, déjà, je suis très, très mal. Je pense qu'il y a une chose, c'est de mourir, en fait. Tout ce que je veux, c'est mourir. Et par le hasard des réseaux sociaux, je tombe sur cet ami qui, lui, en fait, en voyant ce qu'il est devenu au bout de toutes ces années, puis de me rendre compte, en fait, que la vie, c'est pas ça, quoi. C'est lui qui va me donner ce déclic, quoi.
Ce copain de collège, en fait... Sa vie, elle est devenue quoi, en fait?
Lui, il vit, il est barman, notamment à Ibiza, en Espagne. Tout ce que j'aurais voulu faire, en fait. Mm-hmm. Et puis lui, il va m'ouvrir les yeux, en fait. En me disant que c'est pas ça, la vie, qu'on n'est pas comme ça avec les femmes, en fait. Parce que je m'en rends même plus compte.
Donc, clairement, en comparant ces deux vies, vous vous dites... Que d'un seul coup, vous avez pris...
Oui, j'ai pris la mauvaise voie, quoi. Mm-hmm. Donc, tout d'un coup, il va me redonner confiance en moi, cet homme-là.
Et alors, cette confiance, elle se traduit par une plainte.
Voilà, une plainte. Mais quand je vais porter plainte, on me dit qu'il sera convoqué d'ici 3 semaines.
Oui.
Donc, je laisse la plainte, puis 2-3 jours après, je la retire. Je me dis non, c'est pas possible, il va être convoqué je sais pas quand...
On vous laisse la retirer, cette plainte?
Alors, je tombais sur un policier très bien, en fait, qui comprend que je retire ma plainte, que c'est trop dur, mais qui me dit qu'il ne peut pas me laisser partir comme ça et qui m'oriente vers l'assistante sociale du commissariat, puis vers une association du côté des femmes. Et peut-être 6 mois après avoir rencontré cette association, c'est là que je vais porter plainte.
On vous explique
au moment? Non, pas du tout, parce qu'en fait, le matin, il me tape. En fait, c'est un dimanche matin. Ce jour-là, il me tape et il me dit que ma journée, elle commence très mal, que je vais passer une très, très mauvaise après-midi. Donc, je sais que déjà, en temps normal, c'est pas terrible, mais si lui, il me dit ça, ça va être chaud. Et donc là, il décide d'aller faire des courses le midi. Et pendant qu'on était dans le magasin, j'ai appelé la police. Enfin, j'ai appelé les gendarmes en leur disant... que mon conjoint allait me tuer, fallait qu'il vienne et que j'étais prête à porter plainte et aller jusqu'au bout. Donc quand on est rentré des courses, les gendarmes étaient là. Et ils l'ont quasiment interpellé tout de suite, parce que lui en plus s'est pas laissé faire. Il va être tasé 2 fois. Il arrête pas de me dire « dis-leur d'arrêter, pardon, pardon, je vais changer ». Mais moi je suis décidée là, aller jusqu'au bout.
Bien sûr.
Ils ont garde à vue, comparution immédiate.
Comparution immédiate.
De là, il prend 18 mois, donc 12 mois ferme.
Et donc, il est tout de suite déféré?
Oui, tout de suite.
Tout de suite, donc, oui, case prison direct.
Voilà.
Le jour de son anniversaire.
Oui. À la sortie de prison, l'ex-conjoint bombarde Morgane de coups de téléphone, entre 80 et 120 appels par jour. Il l'espionne et lui envoie des centaines de textos quotidiens pour bien lui montrer qu'il sait où elle se trouve, comment elle s'habille et à quelle heure elle se couche. Il la menace aussi de mort. Après 4 plaintes pour harcèlement et l'intervention de l'association Du Côté des Femmes, Morgane est mise en sécurité au secret dans ce CHRS. Pourtant, son ex-conjoint va retrouver sa trace par l'adresse de l'école où leur fils est scolarisé.
On nous a retrouvés, l'école l'a reconnu tout de suite parce que j'avais donné des photos. Donc l'école l'a reconnu tout de suite. Mon fils a reconnu son père aussi, mais il est parti se cacher en fait. Il n'est pas parti dans la direction de son père. Donc mon ex-conjoint a vu mon fils se cacher. Il a vu le personnel commencer à s'agiter, il est parti. Il a eu peur.
Vous savez donc que cet homme est dans les parages maintenant. Vous allez être obligé à nouveau de fuir de...
Aujourd'hui, j'ai plus envie de fuir. Donc je pense me réinstaller dans la région parisienne. Parce que j'en ai marre de fuir, en fait.
C'est pour cela que vous témoignez aujourd'hui à visage découvert.
Oui, entre autres. Et puis parce qu'il faut que ça cesse. Faut pas que les femmes en aient honte.
Vous n'allez pas avoir honte?
Oui, mais c'est souvent le sentiment qu'on a.
Pourquoi on a ce sentiment-là?
Je sais pas, le sentiment d'être une femme battue, en fait. Puis c'est cette étiquette, en fait, qui va nous coller tout le temps. C'est, oui. Oui, un sentiment de honte, en fait. Même si c'est pas de notre faute.
Cet homme vous a retrouvé?
Oui.
Vous êtes à nouveau dans la peur?
Oui, moins qu'avant.
Moins qu'avant?
Oui, beaucoup moins qu'avant. J'ai beaucoup de recul quand même. Grâce au travail du CHRS, j'arrive à prendre beaucoup de recul. Même si c'est pas toujours évident, la vie en communauté, tout ça, oui. Ça a vraiment été une chance. Et heureusement qu'il y ait des endroits comme ça qui existent, parce que c'est un vrai sevrage. Un sevrage de cet homme-là, en fait. Mm-hmm.
Si vous n'aviez pas rencontré cet ancien copain de collège, vous pensez que ça aurait duré combien de temps encore, tout ça?
Je pense que je serais morte. Je pense que quand je l'ai rencontré, ma seule obsession, c'était de mourir. Et je pense que je me serais tuée. Je me serais tuée parce que ça aurait été... C'était devenu trop lourd. J'étais trop fatiguée, trop.
À votre avis, la meilleure manière de se protéger aujourd'hui, c'est
d'en parler. De pas avoir honte, de pas rester seule dans son coin, parce qu'on s'imagine que c'est aux autres, que les autres peuvent s'en sortir, mais pas nous. Donc il faut vraiment en parler, que ça soit à une amie, à son médecin, à n'importe qui, en fait.
Le déclic peut venir de là, en fait.
Voilà. Et je conseillerais vraiment les femmes à assister à des groupes de parole, des choses comme ça qui moi, m'ont beaucoup aidée aussi.
Bonne route, en tout cas.
Merci. Hein?
Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une production Europe 1 Studio. Réalisation, Mathias Helena. Diffusion, Héloïse Bertil. Pour écouter la prochaine histoire, je vous propose de nous suivre sur votre plateforme préférée. Et si ce témoignage vous a plu, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour en parler. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.